VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, départ en trombe des travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission s'est déjà entretenue avec les étudiants des universités publiques et privées de Bujumbura et Ngozi. Mais pour l'opposition, la dite commission est tout sauf indépendante. Au micro de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, on écoute Charles Nditije, le président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises.
Pour nous, c'est un non-événement. Dans un pays meurtri par des crises à connotation génocidaire, il y a un pilier extrêmement important, c'est celui de la justice. Cette loi a complètement occulté la dimension judiciaire. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sociale si cette dimension justice n'est pas présente dans ce mécanisme. C'est plutôt pour nous un moyen d'occulter la vérité parce que les gens ne diront pas la vérité, dès lors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la justice de réparation par rapport au forfait au Burundi, des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont inamnistiables et imprescriptibles.
Charles Nditije, président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises. Au Congo-Brazzaville, 5 candidats de l'opposition, Pascal Tsatsima Biala, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolela, Claudine Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko ont créé leur propre commission électorale dénommée Commission technique des élections, CTE. Jean-Baptiste Mobutu Bemba, leur porte-parole, explique les objectifs de cette commission.
Cela signifie tout simplement que nous aurons nous aussi à collecter les résultats après le vote, qu'une fois qu'il y a eu le décompte des votes dans les bureaux de vote, il y a les procès-verbaux qui sont automatiquement affichés à chaque bureau de vote. C'est une disposition législative qui a un caractère impératif. Si nous avons mis en place cette commission technique électorale, c'est pour que le vote des Congolais ne soit pas volé. C'est le contrepoids de la CNEI que nous ne reconnaissons pas, parce que nous savons bien les dérives de cette institution qui est un instrument formaté pour les besoins de la cause du pouvoir actuel.
Jean-Baptiste Mobutu Bemba, porte-parole de 5 candidats d'opposition qui briguent la magistrature suprême au Congo-Brazzaville. Au Kenya, les groupes terroristes Al-Shabaab et État islamique continuent d'exercer une certaine attraction sur beaucoup de jeunes musulmans. Mais la résistance s'intensifie contre cette tendance. Une organisation a lancé un programme de déradicalisation qui met l'accent non seulement sur les jeunes affectés par le djihadisme, mais aussi sur la formation des imams. Les précisions de Jacques Aristide.
Rana Danoula s'entretient avec deux jeunes hommes radicalisés par l'extrémisme. Son rôle est de les extirper de ce piège, car justement, Ola est le directeur du programme Renforcer la résilience face à l'extrémisme violent, Brave en sigle en anglais. Le programme a atteint 2000 jeunes Kenyans. Certains le suivent sur décision judiciaire, d'autres de leur propre chef. Les imams en bénéficient également. Ils ont droit à 4 jours de formation pour mieux les aider à contrecarrer le message des radicaux. L'une des annonces du programme a attiré l'attention à l'échelle nationale.
En Somalie, les terroristes tuent les musulmans. Au Kenya, ils cherchent à tuer des non-musulmans pour créer l'animosité entre les religions. Mandera, 22 décembre 2015, des Kenyans musulmans ont protégé des Kenyans face aux attaques des extrémistes. Ces braves Kenyans ont sauvé des vies. Ils ont protégé leurs voisins.
La mosquée Riyada se trouve à Pumwani, à la périphérie de Nairobi. En 2013, un rapport de l'ONU a lié l'un de ses responsables avec le financement du terrorisme. L'imam Aizadine Omar est attaché à cette mosquée depuis 5 ans maintenant. Le programme Brave l'aide à repérer ceux faisant montre de penchants extrémistes.
Pour que ces jeunes acceptent d'être déradicalisés, cela prend du temps et il faut le faire étape par étape.
La tâche est difficile pour ceux qui sont radicalisés à l'extrême, mais par la grâce d'Allah, nous y parvenons au bout du compte.
Abdul Mwangi est l'un de ces jeunes appelés par des prédicateurs radicaux à se lancer dans le djihad, la guerre sainte. Une idée qu'il répugne aujourd'hui après avoir passé par le programme Brave.
On nous a fait comprendre le vrai message des extrémistes. Ce que je peux dire à mon nom et au nom d'autres jeunes comme moi est que si vous me citez quelque chose du Coran, oui, je vais l'accepter. Mais si, ce faisant, vous me demandez de faire quelque chose, j'irai moi-même voir ce que le Coran dit ou les hadiths ou d'autres livres qui sont cités.
Jusqu'à présent, Brave a formé environ 150 religieux et imams, mais beaucoup demeurent à l'écart par crainte de représailles. Pour des observateurs, les causes profondes comme le chômage doivent également être prises en compte.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, la lutte contre le djihadisme dans le Sahel fait un front commun contre le terrorisme et l'extrémisme. Tel est le but de la rencontre du G5 Sahel qui se déroule à Bamako au Mali. Une initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD souhaite que des dispositifs communs soient mis en place pour gérer les zones frontalières. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La sécurité et la lutte antiterroriste sur les frontières sont les préoccupations des pays du Sahel. La plupart de ces pays font face à Acmi, Al-Mourabitoun et leurs alliés. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Sur la question de sécurité, pour nous permettre de mieux maîtriser ces flux frontaliers, il y a aussi la nécessité quand même de ne pas faire des frontières, des barrières. Il faut faire en sorte que les communautés frontalières puissent mutualiser.
Abdoulaye Marine Dieng, directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD.
L'investissement majeur, c'est dans le développement. Et ces zones, il faut le dire, ont été négligées. Les investissements n'ont pas beaucoup atteint ces zones. Et la gouvernance est un peu faible dans ces zones-là. Donc si on investit dans la cohésion sociale, dans la bonne gouvernance et dans le développement, on va éliminer un peu la propension à l'utilisation des jeunes dans ces mouvements terroristes.
Cette rencontre de deux jours de Bamako doit faciliter la mise en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones frontières dans les pays du G5 Sahel. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Conflit en Syrie maintenant, des élections présidentielles et législatives doivent être organisées dans le pays sous l'égide de l'ONU dans les 18 mois à compter du 14 mars. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'émissaire spécial onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura. À l'ordre du jour, des négociations pour mettre fin au conflit syrien prévu du 14 au 24 mars, selon les déclarations de l'émissaire onusien à l'agence de presse russe RIA Novosti. Un nouveau gouvernement inclusif, une nouvelle constitution et de nouvelles élections dans les 18 mois. En attendant, la guerre en Syrie va entrer dans sa sixième année. La révolte populaire contre le régime du président syrien Bachar Assad, qui a commencé le 15 mars 2011, s'est muée en une guerre dévastatrice. Michel Joseph.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, a comptabilisé 271 138 morts. Parmi eux figurent 79 106 civils, dont 13 500 enfants et 8 760 femmes, un bilan donné le 23 février 2016. Celui-ci n'inclut pas les milliers de disparus dont on ignore le sort, opposants dans les geôles du régime et membres des forces loyalistes capturés par les rebelles et les groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique. Dans un rapport publié en février, des enquêteurs de l'ONU ont affirmé que des milliers de personnes détenues par les différentes parties ont perdu la vie, accusant le régime de Damas d'extermination de prisonniers. Selon une organisation humanitaire syrienne, 177 hôpitaux ont été détruits et près de 700 membres du personnel de santé tués depuis 2011. L'ONG française Handicap International, s'alarmant notamment des ravages des armes explosives, a fait état d'un million de blessés.
Et pour terminer, la présidentielle de novembre aux États-Unis, les quatre derniers candidats à l'investiture du Parti républicain ont eu hier à Miami, en Floride, leur dernier débat avant leur prochain grand rendez-vous électoral le 15 mars. Mardi prochain, il y aura 5 primaires et un caucus dans les États clés comme la Floride, l'Illinois et l'Ohio. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.